Job, chapitre 38 donc. La lecture sera un tout petit peu longue ce matin, puisque nous lirons une partie du chapitre 38 et une partie du chapitre 39, mais quelques mots d'introduction d'abord. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le ministère pastoral. Mais si je devais évoquer un aspect difficile, ce serait celui d'être régulièrement exposé à la souffrance. Alors évidemment, ce n'est pas le seul type de travail où on est exposé à la souffrance, et certains le sont encore bien plus. Mais le pasteur, et en fait tout chrétien, fait face à la problématique de la souffrance en rapport avec ce qu'il croit, ce qu'il sait sur Dieu et ses projets. Il y a ce décalage que nous constatons entre ce que nous savons être bon aux yeux de Dieu, la vie, la joie, la paix, et les malheurs qui font partie de ce monde brisé, révolté contre Dieu. Il y a le mystère des interventions de Dieu, parfois quand on ne les attend pas, et de ses non-interventions, ou ce qui apparaît comme son silence. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque j'ai été amené à intervenir auprès d'une famille d'une église sœur, dont le bébé était hospitalisé dans un état grave à Necker. Et le petit est décédé, et on m'a demandé de participer aux obsèques avec mon collègue pasteur de l'autre église. Et j'étais moi-même papa depuis peu à ce moment-là, et j'oublierai pas de sitôt ces moments. Le mystère de la souffrance nous touche au plus profond, et parfois nous accable, surtout bien sûr lorsque nous en sommes directement affectés. La Bible n'évite jamais la problématique de la souffrance. Il est d'ailleurs beaucoup question de souffrance dans la Bible. La Bible en parle régulièrement. Et on pourrait dire qu'un livre biblique est entièrement consacré à cette question. C'est le livre de Job. Ce matin, donc, nous faisons une petite pause dans notre série sur la lettre aux Philippiens. Ce dimanche, puis dimanche prochain, il y aura un culte spécial sel, donc le service entraide et de liaison avec une prédication de Daniel Hillion, qui est son chargé de communication. Donc une petite pause de 2 semaines dans Philippiens. Et ce matin, nous méditerons brièvement donc les chapitres 38 et 39 du livre de Job. Deux chapitres qui nous montrent comment Dieu a répondu à un homme accablé par la souffrance et qui lui demandait pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, et dans un sens, un homme qui demandait à Dieu « Où es-tu, Seigneur ?» Et de manière pénétrante, Dieu répond en inversant en quelque sorte la question. « Et toi, où étais-tu ?» Alors c'est un texte poétique, il faut bien en être conscient, un texte poétique écrit aussi dans le langage de l'époque, mais inspiré par Dieu et d'une profondeur immense. Et je vous invite donc à le suivre avec moi. Je vais lire, ça ne va pas être difficile à retenir, les versets 38, les chapitres 38, versets 1 à 18, et chapitre 39, versets 1 à 18 à nouveau. Donc chapitre 38 d'abord, les versets 1 à 18. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ces bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent ? Tout se transforme alors, comme l'argile, qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir, et brisé. As-tu, Job, pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le, si tu sais tout cela. Et je passe au début du chapitre 39, au verset 1. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien? J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta mangeoire? L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées? Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que sa force est grande? Lui laisseras-tu ton travail? Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte? La rassemblera-t-il dans ton aire de battage? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser et qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Nous arrêterons là la lecture de ce texte. Et nous allons méditer ce texte en deux temps. D'abord, nous allons voir que Dieu se présente comme maître du temps et de l'espace, au chapitre 38. Et puis au chapitre 39, Dieu est maître de la vie. D'abord donc, Dieu maître du temps et de l'espace. J'imagine que beaucoup ici connaissent la célèbre pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Et la scène la plus célèbre de cette pièce, bien sûr, c'est la célèbre tirade du nez. Le vicomte de Valvert, un homme sans éloquence, veut se moquer de Cyrano de Bergerac et il ne trouve pas mieux à dire que ceci. Vous avez un nez très grand. Et là, Cyrano répond « Ah non, jeune homme, c'est un peu court !» Et il va se lancer dans une longue démonstration de tout ce que Valvert aurait pu dire, de beaucoup plus drôle et fin, sur son nez. « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux ?» Etc. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs d'école à certains. Moins qu'on puisse dire est que Cyrano remet Valvert à sa place. Et il lui montre que finalement, il n'a rien à dire. Alors, on change complètement de contexte. On passe à une situation beaucoup plus sérieuse et dramatique. Un homme beaucoup plus intègre que Valvert, Job, qui tout au long de chapitres entiers de ce livre interpelle Dieu. « Seigneur, pourquoi permets-tu que tous ces malheurs m'arrivent ?» Job a le sentiment, et nous l'aurions certainement à sa place, d'être justifié dans ses propos, dans sa révolte. Si on lit le début du chapitre de Job, on voit les choses terribles qui sont arrivées, c'est le décès de ses enfants, la perte de sa situation, sa santé a été frappée. Il a le sentiment d'être dans son bon droit. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que Dieu ne lui reprochera pas de l'avoir ainsi interpellé en soi. Mais alors que Dieu était resté silencieux face aux questions de Job, pendant longtemps, il y a quand même du chapitre 3 jusqu'au chapitre 38 où Dieu ne dit rien. Ça correspond sans doute à... On peut ressentir ça dans des situations qu'on vit où on a l'impression que pendant très longtemps, Dieu ne dit rien. Eh bien là, il va répondre. Il va brusquement parler. Et une des choses qui me frappe depuis longtemps dans ce texte, c'est le sens de l'humour du Seigneur. L'ironie qui parcourt ce texte. Verset 3, « Mets donc une ceinture autour de la taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Hein, Job, tu vas m'expliquer comment fonctionne l'univers et le monde. » Verset 4, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. » L'ironie, on pourrait presque dire le sarcasme de Dieu. Et si souvent, il faut reconnaître que nous avons cette présomption que nous savons, nous comprenons. Nous avons peut-être une opinion prête à l'emploi sur tous les sujets. Peut-être que sur à peu près n'importe quel sujet, vous êtes intarissable, vous avez une opinion prête à l'emploi. Et même lorsqu'il s'agit de Dieu, nous sommes prompts à prononcer des jugements péremptoires, même quand il n'a pas si clairement révélé sa volonté. Je sais que Dieu me comprend. Je ne peux pas croire en un Dieu qui agirait ainsi ou qui laisserait faire cela, etc. Une chose qui est claire dans le livre de Job, c'est que Job n'a rien fait qui mérite directement tout ce qui lui arrive. C'est le sens de tous les premiers chapitres, on va dire 3 à 30 à peu près du livre, c'est que justement, il n'y a rien qui explique directement ce qui arrive à Job. C'est pas parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il a fait cela que cela lui arrive. Mais son erreur est de penser qu'il comprend, qu'il a un regard juste et avisé sur tout ce qui le concerne. Écoutons comment il conclut sa complainte à l'égard de Dieu. On est au chapitre 31, verset 35, parce qu'après il y a tout un interlude avec les paroles de Élihu. Et donc chapitre 31, verset 35, voici ce que dit Job, et c'est la fin de ses interrogations en quelque sorte. « Que le Tout-Puissant me réponde, je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail. Je m'approcherai de lui comme un prince. » Vous voyez qu'il est confiant, hein ?« Je m'approcherai de lui comme un prince. » Autrement dit, je sais que j'ai rien à me reprocher. Job semble bien confiant dans son savoir et son bon droit. Mais en demandant une réponse de Dieu, il ne croyait pas si bien dire. Dieu va lui répondre, effectivement. Et là, on s'attend à ce que Dieu explique à Job pourquoi il a permis cette souffrance. On a envie de dire, il lui doit quand même une explication. Et si on a lu les deux premiers chapitres de Job, d'une certaine manière, on l'a l'explication en quelque sorte. Dans une certaine mesure. Mais à aucun moment, Dieu ne va expliquer à Job pourquoi tout cela lui est arrivé. Ce n'est pas comme ça qu'il va répondre à ses interrogations. Par contre, il va retourner la question implicite de Job. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi permets-tu tout cela? Où es-tu? Et il va renvoyer cette question à Job, verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Et là, pour revenir à l'illustration de Cyrano de Bergerac, Dieu ne va pas s'arrêter là. Job ne va pas pouvoir en placer une pendant un bon moment. Dieu lui répond, et cette réponse puissante et splendide. J'aime la Nouvelle Bible Seconde, dans ses notes, parle d'une poésie sauvage. J'aime bien ce terme. Sa réponse puissante et splendide pourrait se résumer ainsi pour ce qui est du chapitre 38. Je suis le maître du temps et de l'espace. Dieu rappelle qu'il est le créateur de la terre, verset 4. Il est le créateur de la mer, verset 8 à 11. Des rythmes de la nature, verset 12 à 15. C'est lui qui a posé des limites dans la création, verset 16 à 18. C'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité, verset 19 à 21. C'est lui qui maîtrise le climat et les précipitations, verset 22 à 30. C'est lui qui a créé les astres, verset 31 à 32. C'est lui qui a créé la sagesse et la connaissance, verset 36 à 38. Bref, on l'a compris, rien n'échappe à son contrôle. Dieu exerce sa providence sur toute la création. Alors on l'a vu depuis le début du livre de Job, Dieu n'empêche pas, et c'est là le mystère, l'intervention du mal. Mais il reste, il garde le contrôle sur sa création. Et cette réponse de Dieu est inattendue parce que, en fait, il répond à côté de la question de Job, qui lui demande « Pourquoi tu permets que ces choses m'arrivent à moi ?» Et Dieu lui dit « C'est moi qui ai créé la terre, c'est moi qui ai créé l'univers, c'est moi qui ai créé la lumière. » On a envie de dire « C'est pas vraiment la question que Job a posée. » Soit dit en passant, on voit ça souvent dans les évangiles que Dieu répond à côté. Quand Jésus répond aux questions de ses interlocuteurs, vous aurez remarqué peut-être que très souvent il répond par une autre question qui n'est pas une réponse directe à la question qui lui a été posée. Mais en fait, c'est une autre question qui remet les choses à leur place, qui détourne la conversation de leur fausse conception de ses interlocuteurs, pour amener la conversation vers ce qui compte vraiment, vers les ressorts profonds du cœur et des motivations. Au jeune homme riche qui vient demander à Jésus « Comment ?» voilà, comment faire pour obéir à toute la loi? Voilà, je veux vérifier que je suis bien réglo, je fais ceci, je fais cela. Et Jésus détourne la conversation. Écoute, va vendre tous tes biens et puis viens me suivre. C'est pas ça que je t'ai demandé, Seigneur. Dieu sait mieux que quiconque nous amener vers la vérité, parce qu'il est à l'origine de toute vérité. Et alors que Job, accablé par ce qui lui arrive, proteste « Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande de faire ?» Eh bien, Dieu ne répond pas à sa question, mais il répond « D'une certaine manière, comme autrefois dans le buisson ardent, je suis qui je suis. » Et c'est ça que Job a besoin d'entendre, avant tout. Plus que de savoir pourquoi quelque chose lui arrive, il lui faut comprendre que sa situation n'échappe en rien à Dieu. Il lui faut comprendre qui est Dieu. Verset 12, et c'est Dieu qui parle. « Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin, Job ? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Verset 31, « Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion ?» Des constellations. Verset 33, « Connais-tu les règles du ciel ? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre ?» Mais Dieu ne se contente pas de rappeler à Job qu'il maîtrise tout. Parce qu'évidemment, toutes ces questions, est-ce que toi, Job, tu étais là ? Ça veut dire implicitement, moi, par contre, j'étais là. Mais il ne se contente pas de dire à Job qu'il maîtrise tout. Il rappelle par toutes ces questions à Job que Job, lui, ne maîtrise pas tout. Il ne maîtrise pas grand-chose. Et c'est précisément ça que Job a besoin d'entendre. Parce que paradoxalement, c'est ça qui va être sa source d'espérance. Il y a dans le monde une quantité de relations de cause à effet que nous ne maîtrisons pas et qui sont liées à l'infini. Et on ne maîtrise pas ces choses-là. On s'en rend compte peut-être quand on réfléchit un peu à son passé personnel, à notre parcours, et qu'on commence à se dire que se serait-il passé si il n'y avait pas eu ceci, cela, si je n'étais pas allé à tel endroit, tel jour, etc. Que se serait-il passé si j'avais réussi ce concours au lieu de le rater, ou si je l'avais raté au lieu de l'avoir réussi? Mais alors, est-ce que j'aurais rencontré ma femme? Est-ce que je me serais intégré dans telle église? Et s'il ne m'était pas arrivé cette épreuve, est-ce que j'aurais ensuite, par la suite des causes à effet, vécu telle chose qui est essentielle aujourd'hui dans ma vie? Et on se rend compte qu'on ne maîtrise pas ces choses, c'est que c'est complexe. On n'arrive pas à dire « Ah bah oui, j'aurais dû faire ça ». Enfin si, parfois on arrive à dire qu'on aurait dû faire quelque chose, mais ça ne nous explique pas en fait où mènent toutes ces relations de cause à effet, c'est très compliqué. Alors comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire « Ah oui, bah alors tout s'explique, les malheurs, il ne faut pas s'inquiéter, ils peuvent amener du bonheur en définitive. » Ce n'est pas ça que Dieu dit, et ce n'est pas ça, je l'espère, que je suis en train de dire. Au contraire, il s'agit de dire que justement nous ne pouvons pas expliquer une grande partie de ce qui se passe dans nos vies et dans le monde. Et c'est tant mieux. Parce qu'il y en a un et un seul qui voit et maîtrise parfaitement ce maillage de causes et d'effets, d'événements qui en provoquent d'autres. Et lui, il voit les choses de manière complète et parfaite. Il voit tout. Nous ne voyons qu'un minuscule segment de ce qu'il fait et de ce qui se passe dans le monde. Et encore, même ce tout petit segment, nous ne le voyons que très imparfaitement. Lui voit tout. Il y a des choses dans la vie que nous ne parvenons pas à réconcilier. Je disais cela dans une conversation avec l'un d'entre vous il y a quelques jours. Un exemple auquel je pense souvent est celui d'une greffe d'organe. Il faut qu'un drame arrive à quelqu'un pour qu'une autre personne soit sauvée. Il y a là un mystère alors, qui rappelle l'œuvre de Christ à la croix. Mais même sans aller jusque-là, nous ne parvenons pas à réconcilier ces deux choses. On ne peut pas souhaiter que quelqu'un ait un accident grave. Que quelqu'un de jeune et en bonne santé, donc en mesure de pouvoir donner un organe, on ne peut pas souhaiter qu'il ait un accident grave. Et en même temps, on ne peut pas ne pas souhaiter que quelqu'un qui attend un cœur qui est gravement malade, un enfant peut-être, puisse en recevoir un. On ne peut pas ne pas souhaiter cela. Ça nous échappe, on n'arrive pas à réconcilier ces choses. Eh bien Dieu, lui, maîtrise tout cela. Dieu, il voit ces relations tellement complexes de cause à effet qui font notre vie. Qui sait ce à quoi aboutiront nos épreuves? Qui sait quelles en seront les conséquences, non seulement directes, mais aussi indirectes? Dieu seul. Et le fait d'accepter que nous ne maîtrisons pas ces choses, mais que Dieu, lui, les maîtrise, c'est la réponse la plus profonde que nous puissions recevoir dans la souffrance. Ce n'est pas un fatalisme. Ce n'est pas un fatalisme. Au contraire, c'est une confiance placée dans un Dieu personnel. Un Dieu qui, on peut ajouter, à la lumière du Nouveau Testament, a prouvé son amour pour nous en nous envoyant Jésus-Christ pour vivre corporellement la souffrance humaine et subir à notre place la condamnation de nos fautes devant Dieu. Et n'est-ce pas là, d'ailleurs, la croix, une preuve magistrale de ce que nous venons de dire ? Qui aurait pu imaginer cette relation de cause à effet ? Qui aurait pu imaginer que la plus terrible des injustices, la plus effroyable des épreuves, la crucifixion de Jésus le juste, puisse conduire à notre délivrance et à notre salut ? Le Dieu de la croix est celui dont les projets ne sont jamais menacés par nos limites et par nos épreuves. Dieu maîtrise l'espace, il maîtrise le temps. Toutes ces choses qui nous échappent sont sous son contrôle. Nous ne comprenons pas tout. Non seulement on ne comprend pas tout, mais on ne comprend pas la plupart des choses. Et c'est normal. Nous pouvons crier notre douleur dans l'épreuve. Nous pouvons interpeller Dieu. Job l'a fait, et Dieu ne lui en a pas voulu. À la fin, il va dire à Job, « Tu as bien parlé de moi. » Mais reconnaissons humblement devant lui nos limites. Et sachons lui faire confiance, même dans la tourmente. Dieu adresse la parole à Job dans la tempête, nous dit le texte. Si nous n'arrivons plus à prier quand l'épreuve est trop lourde, peut-être que certains ici vivent des épreuves tellement lourdes que même prier, c'est difficile. Si c'est le cas, peut-être qu'une suggestion serait de méditer les actes de Dieu dans l'histoire, à la lumière de la Bible, la création, l'incarnation de Jésus-Christ, la croix, la résurrection. Ce Dieu qui a fait cela, qui est intervenu ainsi dans notre histoire, donne toujours le dernier mot à la vie. Et ce sera notre second point plus brièvement. Dieu, maître de la vie. Je sais que ça ne sera pas une grande référence pour tous, mais dans l'un de ses sketchs, l'humoriste Gad Elmaleh évoque ce qui arrive lorsqu'on allume la télévision pendant une insomnie. On tombe toujours, d'après lui, sur un documentaire animalier. Alors, je n'ai pas l'habitude de regarder de telles émissions en pleine nuit, mais de temps en temps, j'aime bien regarder un documentaire animalier, de jour plutôt, de temps en temps. Je trouve cela fascinant de voir la création à l'œuvre, de voir la vie animale dans ses petits détails. On découvre à quel point les animaux sont ingénieux, organisés, étonnants. Et on voit que la vie que Dieu a créée est riche. Et c'est un peu l'idée centrale du chapitre 39. Le Seigneur se penche sur le monde animal, continue son discours, sa réponse à Job, et il va prendre, alors c'est une petite sélection bien sûr du monde animal, avec, semble-t-il, des animaux un peu curieux. C'est parfois, en tout cas, il ne prend pas les exemples auxquels on aurait pensé en premier, mais il va décrire ce qui s'y passe jusque dans les petits détails. Là encore, évidemment, le langage est poétique. Mais l'idée centrale est que Dieu met tout en œuvre pour la vie. Dieu exerce sa providence sur le monde animal. À la toute fin du chapitre 38, versets 39 et 41, cette section commence et on voit que Dieu prépare la nourriture pour les animaux. Puis, dès le début du chapitre 39, on voit que Dieu prend soin des animaux et il connaît tout d'eux. Verset 1, « Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ?» Hein Job, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? Verset 3, on a tous les détails. Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leurs douleurs. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air. Puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. C'est fou de voir que c'est le même créateur qui parlait des constellations, d'Orion, des Pléiades. Et là, il est en train de décrire comment les biches mettent bas. Alors en lisant ce chapitre, on a peut-être un peu cette sensation qui arrive lorsqu'on interroge quelqu'un sur quelque chose qui le passionne et qu'on n'arrive plus à l'arrêter. Ça vous est sûrement déjà arrivé, interroger quelqu'un sur son sujet de prédilection et là, ça n'en finit plus. Le Seigneur continue et c'est comme s'il était fasciné par sa propre création. Verset 12, l'aile des autruches se déploie joyeusement. Et une petite remarque en passant, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autre différence quand même, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Verset 24, à propos du cheval, bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. On voit que Dieu est fier. Il est fier des chevaux qu'il a créés. Dieu connaît la vie animale jusque dans les plus petits détails. Et on pense à cette parole de Jésus, Matthieu 10, 29, « Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe à terre sans l'accord de votre Père. » Dieu maîtrise même la mort des petits oiseaux. Or, à plusieurs reprises dans l'Écriture, eh bien, la Bible parle des animaux, en fait, pour parler des humains, pour parler a fortiori de l'humanité. Par exemple, Ésaïe évoque dans un texte bien connu, qu'on lit souvent à Noël, il évoque la nouvelle création à venir et où il parle de ce monde nouveau où le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Ésaïe 11, 8. Mais si on regarde la suite du texte et du prophète Ésaïe, on voit que ce qui intéresse avant tout le prophète, ce n'est pas la paix entre les animaux, c'est la paix entre les hommes. C'est un exemple qu'il donne pour parler de cela. Et de même, dans le texte que j'ai cité il y a quelques instants, cette parole de Jésus, Jésus affirme que Dieu prend soin des moineaux, mais c'est pour pouvoir dire « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux » au verset 31. Et sans aucun doute, c'est le message que Dieu veut communiquer à Job. Dieu rappelle à Job que s'il prend soin des biches qui mettent bas, eh bien il prend certainement soin de lui également, et que rien de sa vie ne lui échappe. Alors parfois Dieu est subtil, parce qu'il ne dit pas les choses très directement à Job, il ne dit pas « T'inquiète pas, je m'occupe de toi », mais il lui parle des biches qui mettent bas. Et Job a besoin d'entendre ça, il a besoin, là encore, de changer de question, de passer de son « pourquoi » au « qui est Dieu ?». C'est peut-être ce réflexe que nous devrions avoir dans l'épreuve. Passer de notre pourquoi, il y a un moment je pense pour ce pourquoi, c'est normal, mais passer de ce pourquoi à qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Il est frappant de voir que dans la dernière lettre de l'apôtre Paul avant sa mort, la seconde à Timothée, de voir ce qui était le fondement de la confiance inébranlable de Paul. De Timothée 1, 12, « Je sais en qui j'ai cru. » C'est pour ça que Paul est confiant, parce qu'il connaît Dieu. Pas parce que ses circonstances sont faciles, Paul est en prison au moment où il dit ça et il s'attend à mourir. Mais il peut dire encore cela, « Je sais en qui j'ai cru. » Paul croyait en un Dieu qui écrit une histoire dont nous n'avons que quelques courts extraits, mais dont la fin nous a été révélée par grâce. La restauration de toutes choses, la fin du mal et de la mort, la vie dans toute sa force. Et le Dieu qui est au service de la vie, et celui qui est venu lui-même sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Dieu a inversé le mécanisme infernal du mal et de la mort, de sorte qu'en lui, quoi qu'il arrive, on aboutit toujours à la vie. Même quand on prend le chemin de la mort, c'est pour aboutir, en définitive, à la vie, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Quel beau jour, Jésus est ressuscité. Je suis tout sauf un matheux, mais... Bon, en même temps, ce n'est pas très compliqué cet exemple. C'est un peu comme quand vous multipliez quelque chose par zéro. Quel que soit le chiffre, que ce soit deux ou que ce soit des trillions, le résultat sera le même, ça sera toujours zéro. Eh bien, quand Dieu vient nous chercher dans ce monde déchu et nous lie à lui, quand il fait de nous ses enfants et qu'il établit avec nous une relation éternelle, tout ce qui peut nous arriver, en définitive, aboutira toujours au même résultat, la vie, l'abondance, la paix. Peut-être pas encore. L'attente fait partie de la vie chrétienne. La Bible en parle souvent. Bien que Dieu nous en donne régulièrement des signes de ce monde nouveau, il nous en donne un avant-goût, et en premier lieu dans l'Église, dans la communauté que nous formons, nous avons un avant-goût. Mais certainement, c'est la vie qui sera au rendez-vous dans le monde nouveau à venir. Et il faut encore le dire, non pas un monde plus ou moins imaginaire ou un monde purement spirituel, mais un monde concret et réel, transformé par le Créateur lui-même. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre avant tout dans l'épreuve, plus que de comprendre pourquoi cette épreuve nous arrive. Le fait de savoir que notre vie est entre les mains de celui dont rien ni personne ne peut déjouer les plans. Celui qui a utilisé une épreuve terrible pour accomplir ses plans. Pas même le mal, pas même la mort ne l'effraie ou ne peuvent faire dérailler ses projets pour nous. Il est intéressant de noter d'ailleurs que dans sa seconde réponse à Job, que je n'ai pas lue, c'est au chapitre 40, Dieu passe des animaux connus au Léviathan, un animal mythique qui représentait le mal, un peu au même titre que le serpent. Et c'est par cet animal, entre guillemets, que Dieu va terminer son examen des choses. Et dans Job 40, Dieu demande à Job, est-ce que tu es capable, toi, de maîtriser le Léviathan? Et évidemment, la réponse est non. Mais Dieu, par ses questions, lui rappelle que lui le peut maîtriser le Léviathan, maîtriser le mal, vaincre le mal. Et c'est avec cela que nous conclurons. Le mystère du mal ne lui échappe pas à lui. C'est un mystère pour nous. Ce n'est pas un mystère pour Dieu. Et la suite de la Bible avec l'annonce de l'Évangile et ces deux piliers que sont la mort sur la croix et la résurrection, qui sont inséparables, eh bien cela révèle au grand jour le fait que Dieu a pris le mal et la souffrance des hommes à bras le corps, l'a vécu lui-même corporellement en Jésus-Christ, pour les vaincre et les condamner définitivement. Amen.